Bonsoir, merci à tous. Je vais donc, dans le sillage de ce qui vient d'être dit, vous proposer quelques réflexions à partir de ce problème de la philosophie devant son actualité, philosopher maintenant, c'est-à-dire tenter de retrouver quel serait ce présent éternel de la philosophie, cette inactualité de la philosophie dont on aurait à ce point besoin aujourd'hui. Donc la philosophie, j'allais dire, non pas comme consolation, mais la philosophie comme appel. La philosophie comme appel. J'essaye de repérer ce geste depuis lequel le philosophe ou la philosophie se rend actuel, non pas parce qu'on a évidemment plusieurs propositions, on pourrait dire après tout il s'agirait pour la philosophie de réveiller des sens enfouis et oublié depuis la fondation des mondes, ou alors au contraire de se dire que la philosophie devrait inventer de nouveaux sens, être plus, j'allais dire, reconfigurer les vies, redessiner les existences. Il me semble profondément, c'est pour ça que j'avais demandé à ce que ce texte soit lu, que la philosophie, c'est peut-être d'abord avant tout apprendre à désobéir, réapprendre à désobéir dans un sens qui est celui que tente de donner ici la Boétie, c'est-à-dire désobéir non pas au sens immédiat de la révolte, du soulèvement, de l'insurrection, même si ces sens-là sont évidemment politiquement importants, mais commencer déjà par arrêter d'obéir. Alors, pourquoi désobéir serait à ce point aujourd'hui redevenu actuel? Ce sont des choses qui ont été dites face à, j'allais dire, ce désintéressement quand même souvent massif par rapport à l'épuisement de la nature, hein, c'est-à-dire cette nature qui a très longtemps représenté pour nous une source de printemps éternel, un principe de renouvellement, de recréation. Elle se présente à nous sous le signe de l'extinction, de la désertification, face aussi à la montée en puissance, ça a été dit, abyssale, des inégalités qui finissent par faire trembler l'idée même d'une humanité commune ou d'un monde commun, face au surendettement massif. Et il faut bien entendre dans cette idée de surendettement le fait de vider le futur lui-même de ses possibilités, parce qu'après tout c'est ça le système, j'allais dire, nouveau de la dette, non plus comme échange, le surendettement comme manière d'avoir prise sur le futur et de le vider. Et bien, par rapport à cela, si vous voulez, je pense souvent à cette phrase que je trouve très belle de Walter Benjamin, qui disait: la catastrophe, c'est quand tout continue comme avant. Quand tout continue comme avant, et je pense que la philosophie peut se présenter en ce sens comme anti-catastrophe, c'est-à-dire comme une manière de répondre à l'immobilité de cet adjectif que j'ai entendu ici même, du stationnaire. Je trouve ça très beau de présenter la philosophie comme l'anti-stationnaire. Et c'est vrai que la Boétie m'aide dans ce trajet. Pourquoi ? La Boétie, d'abord parce qu'il me permet d'articuler un premier concept qui serait le concept de surobéissance. Vous savez que notre histoire moderne a été marquée depuis Marx au moins par ce que j'appelle les concepts augmentés, le surtravail ou la survaleur chez Marx, le surmoi chez Freud, le surhomme chez Nietzsche, évidemment le surcorps du roi chez Kantorowicz. Foucault parlait au début des années 70 du surpouvoir et du sursavoir. Il faudrait aussi penser, je pense que la Boétie nous y aide, il faudrait penser la surobéissance. En quoi est-ce que nous surobéissons? La Boétie, qui évidemment, vous l'avez entendu dans ce texte, est le point de retournement du scandale. Quand je dis point de retournement du scandale, je veux dire que depuis Platon, on a évidemment dénoncé les tyrans, Tacite, Suétone ont dénoncé les empereurs romains, etc. C'est-à-dire on s'est effrayé de l'abyssal vertige de la noirceur de l'âme de l'autocrate qui opprime, et jusqu'à ce texte de la Boétie qui pose la question, mais au fond, est-ce que ce qui n'est pas monstrueux, c'est notre obéissance à nous, tellement massive, tellement forte. Et peut-être que surobéir, c'est cela aussi, c'est avoir peur d'être confronté à l'impérieuse nécessité de désobéir et de ce que cette désobéissance suppose avant tout de désobéissance à soi-même, de désobéissance à soi-même. Il y a dans le texte, je pense que vous l'avez repéré, cette très provocatrice, très injuste même, mais encore une fois, la philosophie n'est pas là pour nous, pour consoler nos vies, mais elle est un défi à nos existences. Vous avez cette définition explosive de la liberté dans le texte qui nous a été lu, encore une fois très injuste, qui consiste à dire, pour être libre, il suffit de désirer la liberté pour l'obtenir, et c'est bien pour ça que nous en avons aussi peur. C'est bien pour ça que nous en avons aussi peur. C'est-à-dire que être libre, c'est précisément être à la verticale de sa responsabilité, appel responsabilité. Elle n'est rien d'autre, la liberté, que cette verticale elle-même. Il ne s'agit pas de dire nous ne sommes pas responsables parce que libres, mais libres parce que responsables. Et répondre à cet appel lui-même, c'est vrai que, alors c'est injuste parce que évidemment aller dire aux journalistes enfermés dans les régimes autoritaires qu'il suffit d'être libre dans sa tête, etc. Mais je veux dire, ce que j'essaye de faire sentir ici, c'est l'idée d'une liberté comme mise en demeure de soi-même. Et je crois que c'est ça que permet la philosophie. Philosopher, pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit non pas de proposer des énoncés paradoxaux, etc. C'est d'abord arrêter d'obéir, rompre l'enchantement, le confort des vérités terminales, des convictions ancrées, des énoncés définitifs, et retrouver ce sens qui est le sens de ce que Foucault appelait le souci de soi, de ce que Arendt essayait de retrouver, elle aussi, en reprenant les Grecs, c'est-à-dire le dialogue de soi avec soi-même et le jugement. Voilà ce que j'essaye de retrouver avec la désobéissance, que j'inscris au cœur même de l'entreprise philosophique, c'est l'idée, c'est le thème d'une pensée pensante, c'est-à-dire, on a longtemps évidemment articulé avec Spinoza la nature, natura naturans, c'est natura naturata, il faudrait retrouver une distinction qui serait celle de la pensée pensante et de la pensée pensée, et en ce sens évidemment, la philosophie serait du côté de la pensée pensante, de ce travail critique depuis lequel et qui nous permet de désobéir. Et l'examen critique, je crois, requiert cette pensée pensante. C'est pas la philosophie. Je le redis, ce ne sont pas des leçons qu'on récite, des dogmes qu'on répète, mais c'est être à la verticale de cette puissance de jugement, de cette puissance de penser, s'efforcer d'être à la verticale de la question, et que la pensée ne s'anime qu'en écho à cette convocation. C'est pour ça que j'ai été très sensible dans ce qui m'a été proposé, ce qui a été dit aussi à cette idée d'appel. Il faut retrouver le sens de la philosophie comme appel, et donc s'empêcher de réciter des recettes, annoncer des formules apprises, appliquer des solutions toutes faites, etc. Mais retrouver une certaine confiance en soi et à la conscience qui juge, mais pas au sens de prononcer des jugements péremptoires, mais précisément se examiner. Et ce serait ça le vrai sens du souci de soi-même, c'est accepter la responsabilité. Alors ici, je voudrais introduire deux autres termes que j'ai déjà entendus et qui me plaisent. Ce serait le terme de rencontre, puisqu'il en a été question, et peut-être cet adjectif que j'ai entendu aussi, qui est l'adjectif irremplaçable. D'accord ? Et je veux dire, le principe de responsabilité au cœur de la philosophie, c'est faire l'expérience de l'irremplaçable et découvrir en quoi cette expérience de l'irremplaçable ne replie pas chacun sur lui-même, mais l'ouvre sur l'autre. Je vais essayer de défendre ça. Irremplaçable, pourquoi ? Parce que la philosophie, c'est le principe évidemment selon lequel personne ne peut penser à votre place, personne ne peut répondre à votre place et évidemment personne ne peut désobéir à votre place. Personne ne peut désobéir à votre place et cette pensée critique de la philosophie, c'est ce que j'appelle pour mon compte le transcendantal éthique du politique, c'est-à-dire essayer de retrouver ce qui serait quelque chose comme le cœur même du sujet politique, c'est faire l'expérience, alors je le répète et je vais essayer de l'articuler, faire l'expérience de l'irremplaçable. Personne ne peut penser à votre place, personne ne peut répondre à votre place, mais cette découverte de l'irremplaçable n'est pas évidemment la découverte soudain de son unicité, de sa génialité personnelle, de sa singularité extrême. Si on est irremplaçable, c'est précisément pour se mettre au service de l'autre. C'est-à-dire se sentir appelé en tant qu'irremplaçable pour se mettre au service de l'autre, d'une cause. C'est, j'allais dire, la grandeur, et peut-être qu'il n'y en a pas d'autre, du politique. Ce que j'appelle politique ici, c'est ce moment de co-vibration de l'expérience des irremplaçables. Le politique surgit comme mouvement quand, j'allais dire, un certain nombre d'individus se sentent irresponsables au même moment. Et cette vibration, et se sentent irremplaçables précisément, pour se mettre au service. Alors, dernier tour de vis, et je m'arrête, je reprendrai ce terme de rencontre que je trouve décidément, ça a été beaucoup dit, mais c'est un terme très beau. Ce que je viens d'essayer de vous dire, c'est en quoi cette expérience de l'irremplaçabilité qui est au cœur de la philosophie, puisque c'est philosopher, c'est penser en tant qu'on découvre que personne ne peut penser à votre place. C'est d'une simplicité à la fois transparente, mais ce qu'il y a de profondément politique, c'est que c'est depuis cet irremplaçable que se découvre une dimension d'universel et de partage. Alors c'est ça qui, parce que c'est pas un universel qui domine, mais qui vient de cette vibration. Et j'essaye, pour finir, d'articuler ça avec l'idée de rencontre, parce qu'il me semble que cette expérience de la pensée philosophique, c'est aussi l'expérience par laquelle on parvient à désobéir à soi-même. En quoi cette désobéissance à soi ne relève pas de ce que la Boétie très justement appelle la traîtrise. Au fond, c'est en obéissant que nous sommes sans cesse traîtres à nous-mêmes. Et précisément, alors je finis là-dessus pour dire que pour moi, se rencontrer, ça n'est pas se retrouver. Pourquoi ? Parce que ce que j'appelle rencontre ici, rencontrer, c'est précisément trouver ce qu'on ne cherchait pas. Le grand problème, j'allais dire, l'abîme des moteurs de recherche, c'est qu'ils vous font trouver ce que vous cherchez. Et bien, je peux vous dire, c'est désespérant. Si vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez, c'est que vous pouvez être sûr en même temps que vous ne vous trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Or, rencontrer, c'est précisément trouver ce qu'on ne cherchait pas et faire l'expérience de cette blessure qui vous ouvre à des possibilités qui vous sont inconnues à vous-même. Donc voilà, idée de la rencontre, je pense que cette expérience de la désobéissance ouvre à cela. Et pour finir, oui, pour finir, c'est vrai que j'évoquerai, ça a été évoqué dans le très beau texte d'Aragon au début de cette rencontre, et ça m'a fait penser qu'après tout, peut-être que Prométhée, voleur de feu, peut-être que c'est lui le héros de la philosophie, je ne sais pas si c'était le sens de ce que j'ai découvert hein, comme lecture, lui le voleur de feu, est-ce qu'il y a un autre message chez Prométhée que celui-là, le salut de l'humanité, il passe par la désobéissance. Je vous remercie.